Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manirakiza avec vous depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du 1er octobre 2020. Voici d'abord le sommaire. Une mission de la CDAO et de l'Union africaine dépêchée à Conakry avant l'élection présidentielle du 18 octobre.
L'enjeu de ces élections est très important. Ça paraît être la plus importante élection de ces 10 dernières années.
Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, mobilisé Congolais pour réclamer justice pour les violations des droits humains depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC. Les nouvelles autorités de Khartoum et les rebelles soudanais vont signer samedi un accord de paix pour mettre fin à 17 ans de guerre. Le président Donald Trump a annoncé une nouvelle réduction du quota de réfugiés admis aux États-Unis. Les présidents Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Donald Trump lancent un appel pour l'arrêt immédiat des combats au Karabakh. Et pour l'actualité économique et les sports, c'est dans 10 minutes, juste après le journal. Le président de transition malien, Ban Dao, a reçu aujourd'hui le représentant de la CDAO, Amido Boly, porteur d'un message du médiateur de la CDAO, a laissé entendre que les sanctions pourraient être bientôt levées. La junte militaire a promis de rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'une période de 18 mois. Elle a installé un président et un premier ministre de transition, accédant ainsi à certaines exigences de la CDAO qui réclame aussi la dissolution de la junte et la libération des personnalités arrêtées lors du putsch. Le Nigeria a célébré aujourd'hui 60 ans d'indépendance, confronté à d'immenses défis sécuritaires et économiques. Le président Muhammadu Buhari a appelé à construire une nation forte et indivisible. Le destin du Nigeria est d'être la plus grande nation noire de la Terre, a-t-il déclaré dans un discours à Abuja. À moins de 3 semaines de la présidentielle, Amnesty International a dénoncé ce jeudi la répression des manifestations en Guinée à l'origine de la mort d'au moins 50 personnes en un an, ainsi que l'immunité dont jouissent les forces de sécurité dans un rapport jugé exclusivement à charge par le gouvernement guinéen. Le document de 63 pages souligne la responsabilité des forces de défense et de sécurité associées parfois à des groupes de contre-manifestants dans les homicides illégaux de manifestants et de passants. L'Union africaine et la CDAO ont envoyé aujourd'hui une mission à Conakry. Nous y reviendrons dans notre page magazine. En Côte d'Ivoire, l'opposition a suspendu aujourd'hui sa participation au sein de la commission électorale indépendante à un mois de la présidentielle du 31 octobre. L'ex-président Henri Konan Bédier a appelé dimanche, au nom de l'opposition, à la désobéissance civile. L'opposition, qui demande notamment la dissolution de la commission électorale et du conseil constitutionnel, qu'elle estime inféodé au pouvoir, laisse planer le doute sur sa participation au scrutin depuis quelques semaines. Plusieurs leaders, dont l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, Simone Gbagbo, l'ex-première dame, ou l'ancien premier ministre Pascal Affingessan, ont déjà affirmé que l'élection n'aura pas lieu tant que leurs revendications ne sont pas acceptées. Avec le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, des Congolais vont réclamer justice ce jeudi pour des violations des droits humains perpétrées depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC. Cette mobilisation intervient à l'occasion du 10e anniversaire d'un rapport onusien resté lettre morte. Le point avec Nanit Talen.
Des manifestations sont prévues dans quelques villes, dont Bukavu, fief du docteur Mukwege, pour les 10 ans d'une enquête onusienne sur les violations de droits de l'homme commises en RDC entre 1993 et 2003. Le rapport, qui cite les auteurs présumés de chaque crime, proposait entre autres l'instauration d'un tribunal international pénal pour la RDC. Nous déplorons qu'aucune initiative ne soit concrétisée à ce jour pour appliquer ces recommandations, a déclaré le docteur Mukwege dans une tribune publiée ce jeudi par le journal français Le Monde. Il regrette que d'anciens miliciens ont été intégrés dans les forces régulières au fil des programmes de démobilisation et que des promotions ont été accordées à ceux qui devaient répondre de leurs actes devant la justice. L'enquête de l'ONU a répertorié 617 incidents violents qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre crimes contre l'humanité, voire de crimes de génocide, si les faits étaient portés à la connaissance d'un tribunal compétent, rappelle le docteur Mukwege.
Des premiers vols internationaux ont atterri en Afrique du Sud ce matin, marquant la réouverture officielle des frontières du pays après plus de 6 mois de fermeture pour lutter contre l'épidémie de COVID-19. Une conférence internationale se tiendra en mai en France pour redéfinir les règles du financement de l'économie africaine, a annoncé aujourd'hui le président français Emmanuel Macron, qui souhaite un cadre de financement plus assaini et équitable avec l'Afrique. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, est en visite jeudi à Alger, une première depuis 2006, afin de relancer l'alliance entre les deux pays pour faire face aux djihadistes au Sahel et au conflit en Libye. Signature demain samedi d'un accord de paix entre le pouvoir de Khartoum et les rebelles soudanais, l'accord doit mettre fin à 17 ans de guerre. Le point avec Abdulrahman Dir.
La cérémonie doit se dérouler à Juba, capitale du Soudan du Sud. Les nouvelles autorités de Khartoum et les rebelles ont paraffé le texte le 31 août, mais la signature se fera en grande pompe. C'est une journée historique. Nous espérons que la signature mettra fin à tout jamais au combat et ouvrira la voie au développement, a affirmé Souleymane Al-Dabaylo, membre de la commission gouvernementale pour la paix. L'accord est signé par la majorité des mouvements rebelles à l'exception de 2 et nous espérons que cette signature encouragera ces derniers à rejoindre le processus car le document aborde les problèmes de manière réaliste et s'il est appliqué à la lettre, il conduira à la paix, a ajouté M. Dabaylo. L'accord est composé de 8 protocoles, propriété foncière, justice transitionnelle, réparation et compensation, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés déplacés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le groupe qui gère l'organisation des débats présidentiels a fait savoir mercredi qu'il allait prendre des mesures pour garantir l'ordre lors des 2 ultimes rendez-vous entre Donald Trump et Joe Biden après un premier débat chaotique. La Commission pour les débats présidentiels, un groupe de nos partisans, a déclaré qu'il allait apporter modifier le format des débats afin d'éviter le chaos sans donner de précision sur les mesures envisagées. L'administration du président Donald Trump a annoncé une nouvelle réduction draconienne du nombre de réfugiés admis aux États-Unis. Le quota légal passera 18 000 cette année fiscale à un maximum de 15 000 les 12 prochains mois. Mohamedou Oumfa nous donne les détails.
À moins d'un changement dans l'administration, au cours des 12 prochains mois, un maximum de 15 000 réfugiés pourront être admis aux États-Unis contre 18 000 précédemment. Le département d'État a fait cette annonce une demi-heure avant le 1er octobre, début de l'année budgétaire 2021. C'est un véritable tour de vis et ce chiffre est loin des 100 000 personnes accueillies annuellement sous l'administration Obama. Le département d'État a souligné que les États-Unis voulaient aider les réfugiés le plus près possible de leur pays d'origine jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux. Le président Donald Trump avait déjà suspendu les admissions de réfugiés pendant des mois cette année, invoquant la pandémie du COVID-19. Pour sa part, le candidat démocrate Joe Biden s'est engagé à porter à 125 000 le nombre de réfugiés qui seront admis aux États-Unis.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont restés sourds aux appels à la trêve. Ils ont poursuivi leurs échanges de tirs au Nagorno-Karabakh, territoire azerbaïdjanais séparatiste soutenu par Erevan. Le point avec Lionel Lunanira Gahima.
Au 5e jour des affrontements, l'Azerbaïdjan dit avoir pris des positions arméniennes. De son côté, l'Arménie émet des revendications similaires. Chaque camp diffuse des vidéos affirmant avoir infligé à l'autre des centaines de morts. La Russie, qui entretient des relations cordiales avec ses deux anciennes républiques soviétiques, s'est montrée inquiète du rôle de la Turquie, reprochant à Ankara de jeter de l'huile sur le feu. Ce que rejette la Turquie, les présidents russes Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron et américain Donald Trump ont appelé dans un communiqué commun à la cessation immédiate des hostilités. Ils appellent les belligérants à s'engager sans délai à reprendre les négociations sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le Nagorno-Karabakh, en majorité peuplé d'Arméniens, a fait sécession de l'Azerbaïdjan, entraînant dans les années 90 une guerre qui a fait au moins 30 000 morts.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez la Miniteco signée Nanit Talani.
En République du Congo, la compagnie minière australienne Core Potash a lancé l'étude de faisabilité du projet de potasse d'extension de Dougou après avoir levé 8 millions de dollars. Selon l'agence Ecofin, Core a déjà sélectionné des consultants miniers pour lui fournir d'ici à mai 2021 des estimations plus précises sur le potentiel du projet et la meilleure manière de le mettre en valeur. Selon l'étude de préfaisabilité, Dougou peut produire annuellement 400 000 tonnes de muriate de potassium pendant 18 ans. La BAD a approuvé un prêt de 27 millions de dollars en faveur de l'agriculture au Madagascar. Le projet PTASSO sera mis en œuvre sur 5 ans à partir de 2021 dans le sud-ouest du pays. Il promouvra le secteur agricole, les produits halieutiques et les petits ruminants grâce à la transformation industrielle et aux infrastructures. Le projet bénéficiera à plus de 600 000 personnes sur une population d'environ 1 372 000 habitants. Pour terminer, au Burkina Faso, les péages routiers ont apporté 14 millions de dollars de recettes dans les caisses de l'État en 2019, soit une hausse de 15,42% par rapport à 2018. Le gouvernement veut construire 3 nouveaux péages d'ici à décembre à Ouagadougou et Bobo Dioulasso.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir. Pagassi Koura, bonsoir.
Bonsoir à tous. Tirage au sort des groupes de Ligue des Champions. Le tenant du titre Bayern Munich se retrouve dans le même groupe que l'Atlético Madrid. Et la Juventus de Cristiano Ronaldo fera face au FC Barcelone de Lionel Messi. Donc, la composition des groupes. Dans le groupe A, le Bayern Munich sera avec l'Atlético Madrid, Salzbourg et Lokomotiv Moscou. Dans le groupe B, le Real Madrid, Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan et les Allemands de Mönchengladbach. Dans le groupe C, Porto sera avec Manchester City, l'Olympiakos de Grèce et l'Olympique Marseille de France. Dans le groupe D, on aura Liverpool, Ajax d'Amsterdam, Atalanta Bergame et Midtjylland de Danemark. Dans le groupe E, le FC Séville sera avec Chelsea, Krasnodar et Rennes. Dans le groupe F, le Zénith Saint-Pétersbourg sera avec Dortmund, la Lazio Rome et le club de Bruges, le Belge. Dans le groupe G, la Juve sera avec le FC Barcelone, le Dynamo Kiev et Ferencváros. Dans le groupe H, enfin, le Paris Saint-Germain retrouve Manchester United, Leipzig et Istanbul Başakşehir. Et puis toujours en Europe, l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, remporte le prix UEFA du meilleur joueur 2019-2020. Direction la RDC où le championnat reprend cette semaine et le TP Mazembe s'active sur le marché des transferts de Kinshasa, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
À 48 heures du démarrage du championnat de la Vodacom League 1 saison 2020-2021, les champions en titre, le tout-puissant Mazembe, officialise les arrivées pour 5 ans de 2 milieux de terrain et un défenseur central, des compartiments non négligeables qui étaient dans les besoins chez les Corbeaux, Cédric Martial et Zembaï Kong en provenance des APG Slimfou du Cameroun, les milieux de terrain de 21 ans, vainqueurs du championnat camerounais en 2018 avec Coton Sport, rejoint un club pour qui les titres nationaux est presque un acquis avant même les démarrages du championnat.
Et puis pour terminer, en basketball, un costaud porté par le tonitruant duo Anthony Davis-LeBron James. Les Lakers ont largement remporté 116 à 98 hier soir le match numéro 1 de la finale NBA contre Miami, qui a peut-être déjà perdu bien plus qu'un match avec des blessures de Bam Adebayo et Goran Dragic. Adebayo qui avait face à lui alternativement Dwight Howard, Anthony Davis, voire LeBron James, s'est fait mal à une épaule en voulant prendre un rebond au troisième quart.
C'était les sports de Bagassi Koura.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. De retour avec vous, Eric Manrakiza, pour vous présenter les dossiers du jour. Présidentielle en Guinée, Amnesty International a publié un rapport qui accable le président sortant Alpha Condé et son gouvernement. Dans un document publié hier mercredi au lendemain des manifestations contre un troisième mandat de M. Condé, l'ONG note au moins 50 manifestants tués en un an. À moins de 3 semaines du premier tour du scrutin, une délégation de la CEDEAO et de l'Union africaine entame ce jeudi à Conakry une mission de haut niveau sur le processus électoral. On fait le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
La visite de cette mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies intervient alors que la tension persiste et s'intensifie en Guinée à l'approche du scrutin présidentiel. La délégation, qui aura des rencontres ce jeudi et demain, devrait renouveler son soutien à la tenue d'une élection pacifique, inclusive et transparente. La nouvelle plateforme de défense des droits de l'homme, créée il y a quelques jours, apporte son soutien au rapport et parle à son tour d'une régression de la situation des droits de l'homme en Guinée. Mamadi Kaba, président de la LIDA, Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique.
On a pratiquement une régression de la situation des droits humains pour la simple raison que, je vous parle de l'impunité, il y a une forte restriction des libertés publiques. Le ministre de l'administration du territoire avait même interdit tout attroupement jusqu'à nouvel ordre, ce qui est contraire à notre constitution et aux engagements internationaux de la Guinée.
Mardi, à l'appel des opposants au troisième mandat d'Alpha Condé, quelques manifestations sporadiques ont été signalées dans la capitale, mais vite maîtrisées par les forces de l'ordre. Selon certains observateurs, la faible mobilisation s'explique par la participation à la présidentielle de partis membres du Front national pour la défense de la Constitution. Ibrahim Assouri Traoré, analyste politique.
La manifestation a échoué parce que, c'est le Dalain Diallo, le principal pourvoyeur de militants ou de manifestants, n'était pas dans les manifestations. Il faut dire aussi que l'enjeu de cette élection est très important. Ça paraît être la plus importante élection de ces 10 dernières années. Il y a un sondage qui a été publié la semaine dernière qui dit qu'à Conakry, 60% en tout cas des personnes sondées veulent aller aux élections.
À moins de 3 semaines du premier tour, la Commission électorale nationale indépendante dit maîtriser le chronogramme. Mamadi Troakaba, porte-parole de la CENI.
Après que la CENI ait validé son chronogramme, il y a eu 3 décrets. Le décret fixant le jour du scrutin, le décret convoquant le corps électoral et le décret ouvrant la campagne électorale. Donc tout ça, c'est pour dire que la CENI est résolument engagée pour respecter son chronogramme. Et nous pouvons noter cela avec satisfaction que les étapes sont exécutées, il n'y a aucun retard assumé. Et donc, pour ce qui concerne la CENI, elle est encore une fois engagée pour respecter l'engagement chronogramme qu'elle a elle-même librement élaboré.
La campagne électorale est en cours malgré l'absence de consensus sur le fichier électoral. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le premier débat télévisé Trump-Biden. À un peu plus d'un mois de la présidentielle, les deux candidats vont croiser le fer sur des sujets comme la pandémie de Covid-19, les questions raciales, les violences dans les villes, l'intégrité du système électoral ou encore la Cour suprême. Le premier débat se tient alors que le vote a déjà commencé dans certains États. Nous analyserons les performances des deux candidats avec nos invités ce jeudi 1er octobre à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Au Cameroun, des défilés sporadiques ont eu lieu ce 1er octobre dans certaines localités des deux régions anglophones pour célébrer l'anniversaire de l'accession à l'indépendance de cette partie du Cameroun le 1er octobre 1961. Pour certains leaders anglophones, cette date symbolise leur autonomie du reste du Cameroun, ce que n'admet pas le pouvoir central qui s'oppose à toute velléité sécessionniste chaque 1er octobre dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Juntap.
C'est sous la houlette des chefs de groupes armés locaux que des rassemblements ont eu lieu dans des zones reculées des régions du nord-ouest et du sud-ouest. En zone urbaine, les rues sont restées désertes ce 1er octobre. À Bouya, chef-lieu de la région du sud-ouest, ou encore à Bamenda dans le nord-ouest, les activités ont tourné au ralenti tout au long de cette journée. Dans la ville de Koumba, située dans la région du sud-ouest, l'on a enregistré chaque 1er octobre, au cours des 3 dernières années, des heurts entre séparatistes anglophones et l'armée camerounaise. Ce jour, un climat de peur s'est emparé de la population. Les vidéos et photos de célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun, baptisé Ambazonia, ont été postées sur les réseaux sociaux, notamment par certains leaders séparatistes anglophones en exil, à l'instar de Marc Barreta. Dans des vidéos postées sur Twitter, l'on aperçoit dans un village quelques hommes armés en train de parader devant plus d'un millier de civils, brandissant un drapeau bleu et blanc et chantant en Ambazonia. Le gouvernement a fait aucune déclaration sur ces activités, mais comme chaque 1er octobre, les grandes métropoles des deux régions anglophones ont été militarisées. Mais pour l'avocat anglophone Arbor Bala, je cite, les populations ont le droit de célébrer pacifiquement le 1er octobre comme jour de l'indépendance sans interférence des soldats du gouvernement. L'an dernier, le gouvernement a organisé le grand dialogue national pour apporter des solutions à la crise anglophone. Mais le président Paul Biya avait exclu le sujet de l'autonomie des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'universitaire Soumo Tayo est expert en question de sécurité.
Lors de sa tournée des provinces en 1991, le président Biya disait, je cite, « Vouloir dialoguer et définir soi-même les modalités du dialogue, c'est vouloir imposer sa volonté, donc refuser le dialogue. » Il est clair qu'aujourd'hui, en procédant de cette façon, le président Biya n'est pas véritablement disposé au vrai dialogue.
Une position que ne partagent pas les alliés politiques du président Paul Biya. Professeur Sandam Thomas est diplomate et homme politique.
Nos compatriotes estiment que depuis les accords de Fumban, on n'a pas évolué peut-être dans le bon sens. Encore que quand on parle d'anglophones, ils n'y parlaient pas anglais avant l'arrivée des colons anglais. C'est des Camerounais, c'est des Bantous.
C'est le 1er octobre 1961 que le Cameroun sous mandat britannique a accédé à l'indépendance, soit un an après le Cameroun francophone. En 1972, les deux parties du Cameroun ont opté pour la réunification, contesté depuis 2016 dans le cadre d'un conflit armé par les séparatistes anglophones. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, on parlait d'une journée sans masque anti-Covid en caille. C'est une ville du sud-ouest du pays où une jeune femme a trouvé la mort après son interpellation par les gendarmes pour non-port de masque. D'après ses parents et la population en colère, la victime serait décédée à cause des sévices qu'elle a subis à la gendarmerie. Les détails de notre correspondant Arsène Séverin.
Merveille Bazonzela, 23 ans, est morte dans son lit au matin de mardi. Selon sa famille et plusieurs témoins, cette fille qui souffrait d'épilepsie serait décédée des suites de sévices subis au poste de la gendarmerie d'un caillis. Ce décès a enflammé les réseaux sociaux et suscité la colère de la population dans la cité sucrière, située à environ 300 km au sud-ouest de Brazzaville. Un témoin de cette ébullition raconte.
Et nous sommes allés, donc on a pris le corps, nous sommes allés à la gendarmerie. On a semé le désordre, les gendarmes sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait l'échange de paroles avec les gendarmes, comme on était dans la masse, on a pu ravir les arbres au feu des gendarmes. Et après on a fait la casse, on a cassé les tercelles de la gendarmerie, la voiture qui était là-bas aussi on a cassé. Et nous sommes, on a déposé le corps à la gendarmerie, prenez votre charge, et on a pris la direction du marché pour aller faire le désordre.
Pour apaiser la situation, le maire d'Onkaï, Gaston Mampassi, s'est rendu à la gendarmerie où les parents de la défaite avaient déposé le corps de leur fille en guise de protestation.
La situation, oui, il faut le reconnaître qu'elle a été aussi trouble. Ça n'a pas été facile de maîtriser cette foule. Les gens, sachant qu'elle était interpellée par les services de gendarmerie, et donc ça a provoqué une grande réaction à la découverte de sa dépouille mortelle au grand matin. Mais dès lors que la dépouille mortelle a été arrachée aux mains de la famille, réunie dans les locaux de la gendarmerie pour être déposée à la morgue municipale. La foule s'est dissipée, mais cette fois-ci, ils se sont dirigés vers le marché où ils avaient été animés aussi par des velléités. Les velléités les plus simples, c'est d'éventrer les magasins dans le marché central d'un cahier, ce qui a été pratiquement empêché par notre réaction. Dès lors, bon, on peut dire que la situation est revenue au calme.
Les parents ont affirmé à VOA Afrique que leur fille, qui venait de voir ses dernières règles, n'était pas enceinte ni sourde. La justice a aussitôt ouvert une enquête. L'OCDH, arrivé sur les lieux, appelle à accélérer cette procédure. Monica Ngalula est responsable juridique à l'OCDH.
Que la justice fasse un effort d'identifier les présumés auteurs de ce crime et qu'ils répondent à leurs actes devant la justice. Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut les relever de leurs fonctions. Oui, ça ne suffit pas, mais nous voulons que ces auteurs répondent de leurs actes.
Interpellé pour non-port de masque, Merveille Bazonzela a été tabassé par les gendarmes à terre, dans le véhicule et au commissariat. Selon un co-détenu, elle a été libérée dans la nuit alors qu'elle commençait à agoniser. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Soudan, les femmes ont joué un rôle important dans la contestation populaire qui a conduit à la chute en avril 2019 du président Omar El-Béchir. Alors que le gouvernement de transition se dirige vers la démocratie, elles restent très actives et sont bien présentes sur la scène politique. Un reportage de Naba Moyeden, relaté par Nathalie Barge.
Le 10 octobre 2019, Nimat Abdallah Kair est devenue la première femme à diriger la Cour suprême du Soudan. Quatre femmes ont obtenu des postes ministériels, un nombre sans précédent, dont la première femme ministre des Affaires étrangères, Asma Mohamed Abdallah. Mais elles luttent toujours pour modifier les lois et restaurer les droits dont elles ont été privées par l'application stricte de la charia sous le régime de Béchir. Samahir El-Moubarak dirige le syndicat des pharmaciens, membre de l'association des professionnels soudanais qui a joué un rôle majeur dans le soulèvement populaire.
Je n'ai jamais senti un niveau acceptable qui nous permettrait de cesser la lutte. La motivation qui pousse les gens à continuer d'atteindre les objectifs de liberté, de paix et de justice est du même ordre que celle qui les a poussés à renverser le régime de Béchir.
La répression du 3 juin 2019 à Khartoum a fait plus de 120 morts, dont le fils aîné d'Amira Kabous, vice-président de l'Organisation des martyrs de la Révolution. Assise à côté d'un portrait de son fils défunt dans sa maison à Khartoum, Madame Kabous explique son engagement.
Ce que nous faisons est dans la continuité du rôle des martyrs et de leurs sacrifices. Et nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Nous ne voyons pas la liberté, la paix et la justice qu'ils exigeaient. Et nous continuerons pour atteindre tous les objectifs de la révolution pour lesquels nos enfants se sont sacrifiés et pour restaurer les droits jusqu'à ce que nous puissions voir le Soudan dont nous rêvons tous.
Amira Kabous et Samahir El-Moubarak ont reçu le 16 septembre le prix américain Freedom House pour leur rôle dans la promotion de la démocratie au Soudan. La prestigieuse récompense a été décernée cette année sous le thème « Le pouvoir de la protestation ».
C'est la fin de cette édition et ainsi va le monde aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production. Michel Joseph a assuré la mise en onde. À la présentation, c'était Eric Manirakiza. Merci de nous avoir suivis ce soir chez vous. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à toutes et à tous. À très bientôt.